Le magazine des Nations Unies.
Quelles sont les opportunités d'investissement qu'offrent les énergies renouvelables aujourd'hui en RDC? Un forum regroupant investisseurs, banquiers et pouvoirs publics s'est tenu cette semaine à Kinshasa. Non à la torture et autres traitements inhumains et dégradants, à l'initiative du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une conférence débat sur la loi portant criminalisation de la torture a réuni activistes de droits de l'homme et représentants de la magistrature, ainsi que ceux de la police nationale congolaise. Le cadre choisi était le siège de la MONUSCO sur le site du Tex Africa. Et puis, le PAM vient d'étendre son assistance humanitaire à 300 000 personnes déplacées en Ituri. Cette province est doublement affectée par des conflits ethniques et la maladie à virus Ebola. Voilà tout pour les titres. Bon dimanche chez vous.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Clôture mercredi dernier du forum sur les opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables dans la capitale. Les spécialistes ont en effet reconnu que sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, seulement 10% ont accès à l'énergie en RDC. Il faut donc développer toutes les formes d'énergie et surtout les énergies renouvelables pour combler le déficit. C'est ce qui a justifié la tenue de ce forum organisé par l'Association congolaise des énergies renouvelables avec l'appui financier du gouvernement britannique et en partenariat de l'Union européenne. Quatre panels de discussion et d'échanges entre investisseurs, opérateurs, pouvoirs publics et consommateurs ont été organisés. Jean-Pierre Lali Coco, reportage.
Le forum a plutôt pris les allures d'une rencontre internationale. Investisseurs étrangers locaux, entreprises des énergies renouvelables ont échangé sur les possibilités d'investir dans ce secteur en vue de répondre à la demande des consommateurs. Et pour Denis Banlier, président de l'Association congolaise des énergies renouvelables, le forum a été un succès.
À chaud, je dirais. Pour moi, est plutôt un succès parce qu'effectivement, les débats ont eu lieu hier, les rencontres bilatérales, les présentations des acteurs et les rangs de nos membres et les rencontres bilatérales ont lieu ce matin. Donc de ce point de vue-là, on peut être satisfait.
Face à une demande toujours croissante due à l'essor démographique, les défis sont importants. Madame Lucine Lemoile, directrice adjointe des Élans.
L'une des contraintes majeures reste le climat des investissements et la deuxième contrainte, c'est également l'accès aux capitaux. Puisque la demande est là, quand je parle d'accès aux capitaux, je parle des entreprises. Les entreprises doivent investir dans le secteur pour pouvoir atteindre le consommateur en mettant en place des modèles qui vont relever les défis logistiques qu'il puisse y avoir, également atteindre le consommateur de façon financière.
Il reste que le gouvernement doit s'impliquer davantage en instituant une autorité de régulation dans ce secteur. C'est l'un des objectifs d'un grand forum à tenir cette année à Kinshasa sur la problématique énergétique en RDC et notamment les énergies renouvelables, a annoncé le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'énergie.
Madame Lucille Lemoal, directrice adjointe du programme Élan, dressera l'état de lieu des énergies renouvelables en RDC et les défis à relever dans ce domaine. Ce sera tout à l'heure dans Décryptage. Je l'ai dit dans le sommaire, en marge de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé mercredi 3 juillet dernier à Kinshasa une conférence débat sur la loi portant criminalisation de la torture. Honoré Missinga Kalala.
Il faut d'abord éviter de l'amalgame et recadrer la définition même du concept. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme retient deux éléments qui entrent dans la définition de la torture.
Nous avions deux éléments matériels qui définissent strictement la torture. Le premier élément matériel, on va vous dire que c'est une douleur ou souffrance aiguë, physique ou mentale. Douleur physique, ça c'est le premier élément matériel. Et le deuxième élément matériel, c'est que l'auteur doit être un agent de l'État, un préposé de l'État. On ne peut pas parler de torture si c'est un civil qui inflige une douleur, soit-elle intense, physique ou mentale.
Parmi les agents de l'État présents à cette conférence débat, le conseiller juridique principal du commissaire général de la police, Monsieur Johnny Sia Dimantosi, c'est lui penché sur le rôle de la police dans la lutte contre la criminalité. Dans son intervention, le conseiller juridique a affirmé que les autorités congolaises fournissent des efforts pour que le policier remplisse sa mission conformément aux lois.
Aujourd'hui, la police fournit des grands efforts pour former ses policiers, former les officiers et policiers qui sont en contact permanent. Et lorsqu'on interpelle les présumés, en termes policiers, on dit les mises en cause. Alors, dès qu'un OPJ est en face de cette personne, l'OPJ est appelé à adopter une attitude qui respecte le droit de cette personne. C'est ainsi que tout châtiment, toute recherche et des aveux par torture sont prohibés par la loi. Donc la police veille particulièrement que tout ce qu'il doit faire s'efface sous le contrôle du ministère public. Donc le policier a intérêt dans l'exécution de ses actes d'observer la loi. Parce que s'il viole la loi, les juridictions militaires sont là pour interpeller ces policiers pour qu'ils répondent à ces actes.
Le magistrat Roger Kabouila du parquet de Calamon a aussi pris la parole dans ce débat. Il a indiqué que la volonté politique de combattre la torture est évidente en RDC. Et se manifeste, a-t-il dit, dans les engagements nationaux et internationaux clairement exprimés.
En 1999, la République démocratique du Congo adhère à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 11 avril 2002, la RDC ratifie le traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, texte qui a rendu à la fois autonome et imprescriptible l'infraction de la torture. En 2006, la Constitution a érigé aussi ce comportement en infraction en son article 16 alinéa 4 où il est bien dit expressément qu'il ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. L'article 61 du point 2 de la même Constitution dispose que même pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, il est strictement interdit d'utiliser la torture et les peines ou traitements cruels dégradant, tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé.
Pour le magistrat, aucun motif, fût-il lié à l'intérêt supérieur du pays, ne peut justifier le recours à la torture.
Des droits de l'homme à l'humanitaire, il n'y a qu'un pas. Le Programme alimentaire mondial annonce le triplement de ses opérations d'assistance en Ituri pour venir en aide à 300 000 déplacés à la suite de nouvelles violences interethniques qui ont contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir leur village. Le PAM le dit dans un communiqué rendu public mardi. L'assistance du PAM dans cette province vise à sauver des vies et elle est composée de vivres ainsi que de l'argent en espèces. D'autres détails avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Les affrontements entre groupes ethniques ont fait au moins 160 morts ces dernières semaines en Ituri. Une province est touchée également par la maladie à virus Ebola, affirme les PAM. Nos pensées vont aux dernières victimes de cette cruauté insensée, dont la plupart sont des villageois qui ont dû fuir pour sauver leur vie, n'emportant pratiquement rien avec eux, et ce, juste pendant la saison des récoltes, a déclaré Claude Jubidard, représentant du PAM en RDC. Selon lui, son agence assiste déjà 116 000 personnes déplacées par mois, et elle est en mesure d'intensifier cette aide rapidement. Beaucoup de personnes nouvellement déplacées sont malnutries et ont été contraintes de se déplacer à plusieurs reprises. Elles sont dispersées et cherchent la sécurité dans les centres urbains et dans la brousse, indique encore la source. Elle précise que la crise est aggravée par le fait que l'Ituri est l'une des deux provinces de la RDC en proie à la pire épidémie d'Ebola et qui a coûté la vie à plus de 1400 personnes. Là aussi, le PAM aide à contenir la propagation du virus en fournissant une aide alimentaire aux personnes qui ont contracté la maladie et aux contacts.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disions à l'instant, des investisseurs locaux et étrangers ainsi que des représentants des banques et de pouvoirs publics ont réfléchi sur les opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables en RDC. Lucine Lemoal, directrice adjointe de Elan, un programme de gouvernement britannique, parle effectivement de ces opportunités et des défis à relever pour offrir aux nombreux consommateurs des services d'énergie renouvelable. Elle s'entretient ici avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Lucine Lemoal, bonjour.
Bonjour.
Oui, nous venons de participer à ce forum qui concerne justement les opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables. Premièrement, nous voulons que vous puissiez nous présenter votre programme, l'Elan RDC.
Elan RDC est un programme de la coopération britannique qui accompagne le secteur privé dans les difficultés et les contraintes qu'il y a sur le marché. On se définit en général comme étant un programme de développement des marchés. Donc nous, on intervient dans plusieurs secteurs en RDC, pour l'instant l'agriculture, le transport, les énergies énergies renouvelables qui nous amène aussi aujourd'hui et l'accès au financement.
Du coup, vous vous intéressez aux énergies renouvelables et même à la possibilité d'investir dans ces domaines ici en RDC. Comment expliquer cet intérêt?
Comme j'ai dit, ça fait partie des secteurs dans lesquels nous intervenons. Ces secteurs qui, nous avons estimé, avaient le potentiel de changer la vie de millions de Congolais, donc d'impacter favorablement la vie de millions de Congolais pour leur permettre d'accéder justement à l'électricité. On sait qu'aujourd'hui, il y a 83 millions de Congolais et que seulement 9% sont connectés au réseau. Donc, en tant que programme de développement secteur privé, nous avions pensé qu'il y avait certains besoins de la population, mais qui devaient être adressés par le secteur privé aussi et à notre niveau, dans certains secteurs pour lesquels on s'occupe aussi.
80 millions d'habitants pratiquement. Quel est le marché potentiel ici de ce secteur des énergies renouvelables ici en République démocratique du Congo?
Bon, le marché est vaste. On a dit 9% connectés au réseau, dont 1% dans les zones rurales et 19% dans les zones urbaines. Ça vous laisse quand même encore 81% des 83 millions qu'il faut éclairer. Et même dans ces 9%, il y a un réseau qui n'est pas forcément de bonne qualité, avec des coupures, avec des délestages. Donc, j'ai pas d'énergie connectée en réseau, donc de la Sinel. Maintenant, il y a également des populations qui utilisent beaucoup de lampes tempêtes, de bougies pour s'éclairer. Et cette population-là, elle est très grande. Donc, ça reste pour ceux qui ne sont pas connectés autant de marchés pour les investisseurs qui veulent porter des projets d'énergie renouvelable, qu'il s'agit d'hydroélectricité aussi, qu'il s'agit de solaire ou tout autre projet concerné par le secteur.
Oui, la consommation énergétique en RDC est très faible, vous l'avez souligné, madame. Et quels sont les défis qu'il faut relever dans ces domaines pour que l'on puisse assister au développement de ces secteurs en République démocratique du Congo?
Le forum a beaucoup parlé des potentialités techniques, soit hydroélectricité ou solaire de la RDC. Je pense que c'est indéniable pour tout le monde. Mais le forum a également permis de toucher aux contraintes majeures. Ce que je retiens, moi, de ces deux jours, c'est que l'une des contraintes majeures reste le climat des investissements. Et la deuxième contrainte, c'est également l'accès aux capitaux. Puisque la demande est là, encore faut-il que ces demandes puissent. Donc, quand je parle d'accès aux capitaux, je parle des entreprises. Donc, les entreprises doivent investir dans le secteur. Un, pour pouvoir atteindre le consommateur, que ce soit de façon physique, en mettant en place des modèles qui vont relever les défis logistiques qu'il puisse y avoir pour aller délivrer ces produits-là, mais également atteindre le consommateur de façon financière. C'est-à-dire, le consommateur, la demande est là, mais il faut qu'il soit, il puisse payer ces produits-là. Donc, il faut trouver des solutions innovantes qui soient un mécanisme où on peut payer plusieurs fois à crédit. On travaille avec des entreprises de télécommunications pour mettre en place des mécanismes de paiement. On travaille avec des institutions financières de crédit pour mettre en place des crédits consommation. Donc ça, c'est un défi pour les capitaux. L'autre défi pour les capitaux des entreprises, c'est d'avoir du crédit financier pour pouvoir investir et importer plus ou produire plus. Et on a vu aujourd'hui, il y avait des bailleurs de fonds qui disent tous, on a des fonds maintenant pour le secteur. Ça devient un secteur qui est porteur. Les entreprises disent, si on a des fonds, on peut se développer. C'est un grand marché. J'ai dit tout à l'heure, le premier défi reste quand même le climat des affaires parce que les entreprises disent tous, pour celles qui sont déjà là, pour celles qui hésitent à venir, elles citent souvent le climat politique et économique instable comme étant l'une des contraintes à venir. Beaucoup ont cité les problématiques de manque de cadre réglementaire ou de manque de volonté institutionnelle. Et j'étais contente de voir dans la salle l'ANAPI, qui est l'agence de promotion des investissements de la RDC, le ministère de l'énergie, mais également la présidence, qui sont venus pour dire au secteur privé, maintenant c'est une priorité pour nous, et on a le sentiment que le gouvernement nous dit qu'il y a un cadre, qu'il y a une loi, et le secteur privé dit, mais ce n'est pas forcément appliqué, ou on n'est pas au courant. Donc ça a permis en tout cas aux deux instances de commencer à communiquer. Nous espérons que cette communication va continuer pour déboucher sur quelque chose de plus précis pour que les entreprises comprennent que le gouvernement n'est pas un ennemi, pour les accompagner, pour mettre ce qu'il faut pour le cadre alimentaire favorable pour le secteur.
Vous avez dit qu'un des défis, c'est le climat des affaires, mais pour avoir des investissements dans ce domaine, il faut absolument attirer les investisseurs. Et au niveau de l'élan RDC, et qu'est-ce que vous faites pour effectivement non seulement attirer ces investisseurs, mais aussi pour les encadrer? Qu'est-ce que vous faites?
C'est une très bonne question. Je pense que nous avons commencé par montrer que c'était faisable en le faisant nous-mêmes. Nous avons travaillé, nous avons fait ce qu'on appelle un challenge fund. C'était un appel à fonds, enfin, une espèce d'appel à fonds où nous avons contribué au niveau national et international en contribuant financièrement pour les entreprises qui voulaient investir à hauteur de 50%. Au niveau national, ça a permis que les investisseurs augmentent leur capacité d'investissement dans le secteur. Et au niveau international, ça a permis de faire venir des entreprises internationales qui n'étaient pas là, qui par contre opéraient dans les pays voisins tels que D-Light, B-Box, Burn, qui aujourd'hui sont présents en RDC. Et ça permet de donner en termes de message justement aux investisseurs nationaux et internationaux que c'est un pays où il faut bon faire des affaires. Et ces entreprises-là sont venues, elles sont encore présentes. Mais également, et leur a permis la création de l'ACED, qui est l'Association des entreprises justement de l'énergie renouvelable et décentralisée. Et l'ACED est là justement pour permettre de porter ce plaidoyer-là avec des entreprises privées vers le gouvernement pour travailler sur les problématiques de climat des affaires. Donc on a pu, à notre niveau élan, commencer à tacler, à répondre à ces problèmes aux deux niveaux. Maintenant, on espère que le secteur privé va se l'approprier et vont continuer avec le soutien de tous les bailleurs de fonds qui seront prêts à les accompagner.
Et madame, il y a des investisseurs qui sont intéressés dans ce secteur ici en République démocratique du Congo, mais il y a un autre défi qu'on n'a pas toujours signalé, mais c'est que ces investisseurs viennent avec une technologie nouvelle, mais il n'y a pas de formation au personnel local ici en République démocratique du Congo.
C'est une excellente remarque et c'est vrai qu'elle a été mentionnée lors du forum, ce besoin de formation. Et je pense que de toute façon, les entreprises qui viennent s'installer, vous n'avez pas de nouvelles technologies, elles ne vont pas réussir si elles n'ont pas la bonne équipe en place. De toute façon, je pense que ça coûterait beaucoup plus cher de faire venir des internationaux. On parle aujourd'hui de tous ces investissements, donc c'est peut-être certainement plus intéressant d'investir dans la formation locale. C'est plus durable et ça permet également de créer ce lien avec la population qui finalement est celle qui achète les produits. Il serait difficile de faire venir un commercial de l'extérieur ou un technicien de l'extérieur. Donc je pense que ACED également va l'évoquer avec la plupart des partenaires et des entreprises qui sont installées déjà ou qui sont en train de s'installer pour dire qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'il y a des partenariats qui sont faisables avec des universités, avec des centres de formation technique. J'espère en tout cas que ACED l'a noté et là, nous, à notre niveau, nous notons également et nous allons le suivre de plus près aussi.
Lucine Lemoyle, je vous remercie.
Merci à vous et merci d'être venu.
En plus bref, rendons-nous d'abord à Goma, au Nord Kivu, où le tout nouveau représentant spécial adjoint AI du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations auprès de la MONUSCO, le français François Grignon, a rencontré le gouverneur de province Karlin Zanzuka Sivita. C'était mercredi dernier. Le numéro 2 de la mission onusienne a fait part de sa totale disponibilité quant à son implication dans la recherche de la paix et la sécurité au Nord Kivu. François Grignon a été nommé le 27 juin 2019 par Antonio Guterres en remplacement de l'Américain David Gressley, devenu représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la question d'Ebola. Restons encore à Goma et parlons développement cette fois-ci. La problématique de l'accès à l'électricité des populations rurales d'Afrique centrale a été au centre d'un atelier sous-régional dans cette ville, avec la participation de 8 pays de cette sous-région. L'initiative de ce forum revient au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, et c'est la chef de bureau au terrain du PNUD Nord Kivu qui a ouvert les travaux. Dans son mot, Mme Oana Mihai a souligné l'importance d'établir des partenariats stratégiques entre les gouvernements, des partenaires au développement, le monde des affaires ainsi que la société civile pour atteindre l'objectif de l'énergie pour tous. Cet atelier a permis aux représentants des pays concernés de confronter leurs expériences respectives et de conjuguer les efforts en vue d'accélérer l'accès de tous à l'électricité. Enfin, un saut à New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté mardi dernier une stratégie et un plan d'action mettant l'accent sur les dangers liés à la multiplication des discours de haine amplifiés par les technologies numériques. Le secrétaire général a ainsi appelé toutes les entités des Nations Unies, les États membres ainsi que les entreprises privées, la société civile et les médias à renforcer leur engagement et leur soutien face à cet enjeu. La stratégie d'Antonio Guterres repose concrètement des idées sur la manière de s'attaquer aux causes profondes ainsi qu'aux facteurs contribuant aux discours de haine et de réduire ainsi leur impact sur les sociétés.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine de Nations Unies revient sur l'entretien accordé à Radio Okapi par Omar Aboud, chef de bureau de la MONUSCO Beni Boutembo Lubero, Nord Kivu. Différentes questions d'actualité de la contrée ont été abordées, notamment la problématique de la maladie à virus Ebola, sa rencontre avec le leader de la région Antipas Boussanyamouissi, ainsi que l'apport de la MONUSCO dans cette zone. Suivez Omar Aboud dans cet entretien avec ses Kombi Katondolo.
Omar Aboud, bonjour.
Bonjour.
Le Congo a célébré le 30 juin son indépendance. Un message à adresser à cet effet.
Je tiens à adresser toutes mes félicitations au peuple du Grand Nord pour leur indépendance. Cette célébration revêt un caractère spécial cette année, car c'est la première fois qu'on célèbre l'indépendance après une transition politique pacifique. Je me permets d'adresser aux Congolais qui nous écoutent. Sikuku Njema Yalipanda. Le Congo se libère petit à petit de tout ce qui l'entrave sur son chemin vers la libération de tous les maux. Nous sommes à vos côtés pour faire cette longue marche ensemble. Sur le plan local, j'ai parlé à M. Boussanyamouissi et c'est une excellente occasion de le retrouver dans le Grand Nord, où il est impliqué dans la lutte contre Ebola et l'insécurité. Nous devons déployer tous les efforts nécessaires pour libérer la population du Grand Nord de la maladie à virus Ebola et des groupes armés. Les populations d'ici ont beaucoup souffert et nous devons œuvrer de concert pour améliorer la santé, la sécurité et la situation économique de la région. Son retour à Beni à la date de l'indépendance du Congo est un grand symbole d'un nouveau chapitre pour la population du Grand Nord. Sans doute, cette personnalité pourra rapprocher les acteurs politiques afin qu'ils œuvrent tous ensemble pour relever tous les défis que nous connaissons à Beni. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour contrer toutes les menaces et agir pour le bien-être de la population.
Monsieur le chef de bureau, c'est pratiquement presque une année qu'Ebola sévit dans cette région. Qu'est-ce qui est fait et comment vous comptez encore apporter votre effort, votre apport pour mettre fin à cette maladie?
Comme vous le savez, Ebola sévit encore dans la région de Beni et nous avons plus que jamais besoin de l'appui de la population pour le vaincre. Si la maladie n'est pas éliminée à 100%, elle pourra toujours revenir. Comme nous voyons aujourd'hui la réapparition, même s'il y a quelques semaines, on n'avait plus de cas ici. La population de Beni a apporté son soutien aux équipes de la riposte et je les remercie fortement. Sans cet appui, Ebola aurait apporté beaucoup plus de vie. Je tiens à renouveler l'engagement de la MONUSCO avec l'OMS et les autres acteurs de l'ONU et aussi avec la population de Beni dans la lutte contre Ebola. Continuons ensemble dans cette lutte jusqu'à son éradication totale.
Parlant de la sécurité, peut-on savoir ce que fait la MONUSCO actuellement pour mettre fin à tous ces groupes armés qui continuent à endeuiller les populations ici dans cette région?
Alors que Ebola est un phénomène récent dans la région, l'insécurité est là depuis longtemps, trop longtemps. Nous continuons à soutenir le gouvernement congolais, les FRDC et la PNC pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. La menace ADF est toujours présente et nous travaillons avec les FRDC pour protéger la population de cette menace. Nous continuons à faire des opérations offensives avec les FRDC contre ADF avec l'intention de les combattre et neutraliser jusqu'au jour qu'ils ne seront plus une menace pour la population du Grand Nord.
La MONUSCO est là. Peut-on savoir quel est le plan dans les jours, dans le mois, dans les années à venir?
La MONUSCO continuera avec ses projets QIP et CVR, ça veut dire projet à impact rapide et réduction de violences communautaires partout dans le Grand Nord. Nous sommes sur le point de débuter notre projet de stabilisation dans les collectivités de Benimbao, Watalinga et Ruwenzori. Le mois prochain, des activités de dialogue démocratique auront lieu dans ces zones pour recueillir les préoccupations des communauté et tenter d'identifier les principales causes des conflits.
Monsieur Omar Aboud, merci.
Merci à vous et à Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, les organisations de la société civile de Kasongo demandent la représentation de la MONUSCO au sud Maniema. Elles appellent ainsi à plus d'actions pour la protection des civils dans cette partie du territoire national. Ce vœu a été formulé à l'issue d'une série d'ateliers de formation et de renforcement des capacités des acteurs locaux en gouvernance sécuritaire, protection des civils et droits de l'homme par les sections substantives de la MONUSCO Kindu. Suivez Dieudonné Tumbaoussa Bomba qui a transmis ce message au nom des participants. Il est au micro de Christian Mapindano.
Nous sommes conscients du rôle que les agents onusiens jouent dans la protection des civils depuis des années en République démocratique du Congo. Nous prierons de tourner votre attention plus dans les zones frappées par les conflits. Nous citons Kasongo et Kabambare, où la population a été tyrannisée, massacrée, appauvrie par les milices armées. L'implantation d'une section de MONUSCO à Kasongo serait aussi idéale. La réhabilitation des écoles, la construction des structures de santé, l'ajout des bornes fontaines pour les mamans qui font des longs trajets pour puiser de l'eau avec tous les risques possibles. Certains villages sont encore abandonnés et les habitants sont en déplacement. Les gens ont tout perdu et continuent à le perdre. Nous lançons un appel pathétique à tous nos frères qui hésite encore en brousse de quitter ses campements pour que la population vive en paix.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Le mandat d'arrêt lancé contre le chef de guerre Guidon au Nord Kivu, c'est la question posée à la conférence bi-hebdomadaire des Nations Unies le 27 juin dernier à partir de Goma. Suivez la question ainsi que la réponse de la porte-parole de la MONUSCO.
Je suis Glody Mourabazi pour UBFM et correspondant des 7/7.cd. En fait, la MONUSCO s'est réjouie du mandat d'arrêt contre les chefs rebelles Guido. En fait, c'est une personne qui a été vraiment à la base de l'insécurité ici en province du Nord Kivu et malgré toutes les opérations militaires de la MONUSCO. La MONUSCO n'a pas réussi à vraiment stabiliser et arrêter Monsieur Guido. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que la MONUSCO va faire pour aider la justice congolaise à arrêter Monsieur Guido?
Alors, en effet, concernant le mandat d'arrêt qui a été émis à l'encontre de Guidon, l'auditeur militaire supérieur opérationnel du Nord Kivu, qui a lancé ce mandat d'arrêt le 7 juin dernier, je vous le rappelle, a sollicité l'aide de la MONUSCO pour l'exécution de ce mandat. Un mandat pour crime contre l'humanité pour viol, crime de guerre pour recrutement d'enfants et participation à un mouvement insurrectionnel. Alors, il s'agit d'un développement positif pour la sécurisation de la province et pour la lutte contre l'impunité au vu des nombreuses atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe NDCR dans le Nord Kivu. Depuis le début de l'année, près de 300 allégations de violences sexuelles liées au conflit ont été rapportées dans le territoire de Massissi et le Bureau conjoint des droits de l'homme a vérifié 111 cas entre janvier et avril dernier, dont la moitié sont imputables au NDCR. Donc oui, nous allons accompagner la justice congolaise et justice militaire pour pouvoir exécuter ce mandat et nous avions auparavant effectué un plaidoyer pour que ce mandat soit émis.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30 heure de Kinshasa sur Radio Okapi.
Une date à retenir dans vos agendas, le 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population. Sachez aussi que le jeudi 4 juillet 2019, la planète Terre comptait 7,651,309,214 personnes. C'est la fin de cette édition du magazine des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Je suis Babel Pongo Massimango. Je vous l'ai présenté avec le concours technique de Polydor Basunga. Honoré Missina Kalala était au reportage à la réalisation sous la coordination de Jean-Pierre Elali Koko, qui était lui-même en même temps au reportage. Tout ceci s'est fait sous la supervision de Julien Nyamweni. Merci donc de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine. Bye bye.